Chapitre 27, Dieu révélé par le Christ. Dieu, par son Fils, s'est révélé comme un être personnel. Reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne, Jésus revêtit une forme humaine pour venir sur la terre. C'est donc un sauveur personnel qui descendit ici-bas et remonta au ciel où il intercède pour nous devant le trône de Dieu. Quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, dit l'apôtre saint Jean, exerce auprès du Père un ministère en notre faveur. Le Christ, la lumière du monde, voilà l'éblouissante splendeur de sa divinité et vécue parmi les hommes, afin que ceux-ci puissent, sans être consumés, connaître leur Créateur. Depuis le péché, nul n'a jamais vu de Dieu que sa manifestation en Jésus-Christ. « Moi et le Père nous sommes un », disait-il. « Personne, dit l'apôtre saint Jean, ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Le Christ est venu ici-bas pour enseigner aux hommes ce que Dieu désire qu'ils sachent. Au ciel, sur la terre, dans les eaux profondes de l'océan, nous voyons les œuvres de ses mains. Tout ce qui a été créé témoigne de sa puissance, de sa sagesse et de son amour. Mais ce n'est ni par les étoiles, ni par les océans, ni par les cataractes que nous pouvons connaître la personnalité de Dieu telle qu'elle nous est révélée en Jésus-Christ. Dieu a jugé bon de nous donner une révélation plus nette que celle que nous offre la nature, afin de nous décrire sa personnalité et son caractère. Il a envoyé son Fils ici-bas pour révéler, autant que les hommes étaient capables de les discerner, la nature et les attributs du Dieu invisible. Dieu révélé aux disciples. Relisons les paroles prononcées au Cénacle par le Christ, à la veille de la crucifixion. L'heure de l'épreuve approchait, et il cherchait à réconforter ses disciples, qui allaient être bientôt terriblement tentés et éprouvés, eux aussi. Que votre cœur ne se trouble point, leur dit-il. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Thomas lui dit. Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Mais les disciples ne comprirent pas le sens de ces paroles. D'ailleurs, une bonne partie des enseignements du Sauveur leur était encore obscure. Désirant leur donner une connaissance plus claire et plus distincte, il leur dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » À la Pentecôte, lorsque les disciples reçurent le Saint-Esprit, ils comprirent mieux les vérités dont le Maître leur avait parlé en parabole. Beaucoup de ces enseignements, qui leur semblaient jusque-là des mystères, furent éclaircis. Mais même alors, ils ne reçurent de la connaissance de Dieu que ce qu'ils pouvaient supporter. L'accomplissement complet de la promesse de Jésus, de leur révéler le Père ouvertement, était encore pour le futur. Il en est de même aujourd'hui. Nous connaissons partiellement, imparfaitement. Mais lorsque le Christ, une fois le conflit terminé, accueillera devant son Père ses fidèles enfants qui lui auront rendu témoignage dans un monde de péché, ceux-ci comprendront clairement ce qui aujourd'hui leur paraît mystérieux. Jésus est monté au ciel avec son humanité glorifiée. À ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et ils seront avec lui pendant l'éternité. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et quel sera le grand bonheur du ciel, si ce n'est de voir le Seigneur? Quelle joie plus intense pourrait avoir le pécheur sauvé par la grâce du Christ, sinon de contempler la face de Dieu et de l'avoir pour Père? Le témoignage de l'Écriture. L'Écriture définit clairement les relations qui existent entre Dieu et son Fils, et fait ressortir leurs personnalités respectives. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Dans la prière sacerdotale, qui se lit au 17e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, il est parlé de la personnalité du Père et du Fils, ainsi que de leur unité. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas leur personnalité. Ils sont un en intention, en esprit, en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que Dieu et Jésus sont un. Le caractère de Dieu révélé en Christ. En revêtant notre nature, le Fils de Dieu s'est uni à elle, et en même temps, il a révélé le Père aux pécheurs. Seul celui qui était l'image même du Dieu invisible, qui avait été en sa présence dès le commencement, pouvait révéler à l'humanité le caractère de la divinité. Jésus fut en toute chose semblable à ses frères. Il revêtit notre chair, eut faim et soif, connut la fatigue. Il devait, comme nous, récupérer ses forces par la nourriture et par le sommeil. Il participa au sort de l'humanité, lui, l'innocent Fils de Dieu. Étranger et voyageur sur la terre, dans le monde mais pas du monde, tenté et éprouvé comme les hommes d'aujourd'hui, il vécut sans péché. Tendre, compatissant, sympathique, toujours plein de prévenance, constamment au service de son Père et des hommes, il manifesta le caractère de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, disait-il, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. Aimez vos ennemis, disait-il encore, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il est bon pour les ingrats, et pour les méchants. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Les entrailles de la miséricorde de notre Dieu se sont émues, et le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. La gloire de la croix. C'est la croix du calvaire qui nous donne la plus sublime révélation de l'amour divin. Aucun langage ne peut en exprimer la signification profonde. La plume ne saurait le décrire, ni l'esprit humain le concevoir. En contemplant la croix, on ne peut que dire, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Christ, crucifié à cause de nos péchés, ressuscité des morts, monté au ciel, telle est la science du salut qu'il faut connaître et enseigner. Ce que fut le Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà la sagesse infinie, l'amour infini, la justice infinie. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Le don ineffable. C'est par le don du Christ que nous jouissons jour après jour des bontés intarissables de Dieu. La fleur au coloris délicat et au parfum enivrant a sa source dans ce don. C'est lui qui a créé le soleil et la lune. Il n'est pas d'étoile dont il ne soit l'auteur. Chaque goutte de pluie, chaque rayon de lumière accordé à un monde ingrat témoigne de l'amour de Dieu en Christ. Tout nous est donné grâce à ce don ineffable du Fils unique de Dieu. Il fut crucifié afin de répandre ses bienfaits sur la terre entière. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. La connaissance qui transforme. La connaissance de Dieu révélée en Christ est indispensable au salut. C'est elle qui transforme le caractère, recrée l'âme à l'image de Dieu, et communique à l'être tout entier une puissance surnaturelle. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Le Sauveur a dit, « J'ai gardé les commandements de mon Père. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce que Jésus a été lorsqu'il était ici-bas, nous devons l'être aussi. Par sa force, il faut que nous vivions la vie noble et pure qu'il a vécue. » À cause de cela, dit saint Paul, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Telle est la connaissance que le Seigneur veut nous donner, et sans laquelle tout est vanité.